Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour attaquer cette nouvelle semaine dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis de vous retrouver chaque jour de midi à 15h avec toute la fine équipe aujourd'hui autour de la table et le grand retour de Rémi Barré. Comment ça va Rémi ?
Bonjour Estelle, bonjour à tous, ça va très bien.
C'était bien ces vacances.
Ça fait du bien.
Eh ben écoutez, tant mieux, vous êtes en pleine forme, je suis ravi. À côté de vous, un homme qui ne prend jamais de vacances, c'est Péricolé.
Moi, j'ai, comme Rémi, j'ai toujours la frite.
D'accord, ok, super, ça part bien là. On est avec Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîte. Ça va, Jérôme ?
Impeccable.
Ça se remplit ?
Oui. Les septes, mon congélateur sur.
Ouais. Et les réservations ?
Ça va, Noël devrait être pas mal.
Ah bah écoutez, on est content pour vous. Jérôme, et puis notre médecin préféré, bien sûr, il avait déserté les plateaux pour partir dans l'humanitaire. C'est Robert Sebag, ça va Robert ?
Ça va, un peu inquiet sur les services de pédiatrie.
Ah oui.
L'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Bon, et ben on va parler des services publics, justement, dans cette émission. Robert, au sommaire, aujourd'hui, Bruno Le Maire, qui annonce la fin du quoi qu'il en coûte au profit d'aides plus ciblées, chèque fuel, chèque alimentaire, aide sur les carburants pour les plus modestes. Est-ce la bonne stratégie ? Doit-on continuer à aider ou couper le robinet ? On attend vos réactions au 32-16. À 13h, Emmanuel Macron, prêt à dissoudre l'Assemblée nationale, selon le journal du dimanche hier. Serait-ce une erreur ? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. Faut-il rendre le Nutri-Score obligatoire ? On en discutera ensemble. À 14h, 7 Français sur 10 pensent que la France est en déclin. Une large majorité de personnes jugent que les services publics sont défaillants. Faut-il s'inquiéter pour l'avenir de notre pays ? On attend vos messages sur l'application RMC. Et puis aujourd'hui, c'est le grand retour du coffre RMC, Rémi.
Exactement. À quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous connaissez peut-être le principe. Hein. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, là, vous gagnez soit un iPad, soit une enceinte Marshall Woburn. Mais vous pouvez aussi tenter de remettre en jeu ce cadeau. Donc, vous risquez de le perdre, d'accord. Mais vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec à l'intérieur, attention, une TV 70 pouces, une barre de son. Oh. Une Xbox Series S, un four à mini pizza
pour la Coupe du Monde,
et même un mini bar. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC ? Vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16.
RMC.
Il est midi 7, vous êtes sur RMC. On va démarrer tout de suite Estelle Midi avec la déclaration du jour. C'est celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a annoncé ce matin chez Apolline de Malherbe la fin du quoi qu'il en coûte et désormais des aides plus ciblées en faveur des plus démunis. Écoutez.
Le quoi qu'il en coûte est fini et nous allons vers des aides qui seront plus ciblées, c'est-à-dire qui toucheront les personnes qui en ont le plus besoin, les ménages qui sont le plus touchés par l'inflation, les prix alimentaires, les prix de l'énergie, les prix des carburants, et les entreprises qui sont réellement le plus touchées par l'augmentation du prix des matières premières. Il y aura une augmentation le 1er janvier de 15% du prix de l'électricité, du prix du gaz. Et maintenant, il faut que nous ciblions les aides par souci de justice, parce qu'il faut que ça aille à ceux qui en ont le plus besoin, et aussi par souci de remise en ordre de nos finances publiques.
Rémi, elles vont consister en quoi ces aides ?
Alors, il y en a toute une série. Hein. Il y a d'abord la prime de rentrée exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle, parce qu'elle est différente de la traditionnelle allocation de rentrée scolaire qui a été perçue par pas mal de foyers, ceux qui bénéficient des minima sociaux, depuis septembre. Mais à partir de la semaine prochaine, ce sont les foyers percevant déjà la prime d'activité qui vont y avoir droit, soit près de 4,5 millions de ménages. C'est une prime de 28 euros, plus 14 euros par enfant à charge de moins de 20 ans.
Prime. Par mois ?
Non. C'est une prime de rentrée scolaire exceptionnelle qui s'ajoute à la prime de rentrée scolaire traditionnelle. Tu me suis jusque-là.
Oui.
Comme l'an dernier, il sera envoyé aussi le chèque énergie exceptionnel. Il y a déjà le chèque énergie traditionnel. Là, c'est un deuxième chèque énergie qui va être donc envoyé automatiquement à partir de la fin décembre à 12 millions de ménages. Il peut atteindre jusqu'à 200 euros. Un autre chèque énergie va également être accordé à la fin de ce mois, toujours sous condition de ressources et cumulable avec le précédent.
Il s'appelle comment celui-là ?
C'est un chèque exceptionnel destiné aux personnes qui se chauffent au fioul. Cela concerne 1 400 000 foyers, aide comprise entre 100 et 200 euros. Ceux qui se chauffent au bois ne sont pas oubliés avec un chèque, encore une fois, exceptionnel pouvant atteindre jusqu'à 200 euros. Il faut y ajouter la prime de Noël, hein, qui concerne environ 2 millions de ménages. Elle n'est pas automatique. Mais enfin, dans le contexte actuel, oui. On voit mal comment ceux qui en bénéficient ne l'auraient pas. Il semblerait même logique que son montant soit revalorisé cette année, puisqu'il n'a pas été revalorisé depuis 2009.
D'accord.
L'an dernier, une personne seule recevait 152 euros, plus du double pour un couple avec deux enfants. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le gouvernement aura dépensé 100 milliards d'euros pour protéger les Français contre la flambée des prix entre 2021 et 2023.
Alors, faut-il continuer à aider ou faut-il couper le robinet ? Je m'adresse à vous, Perico Légas.
J'adore le... pas le cynisme, mais j'allais dire le... Ah, la désinvolture du ministre qui, de quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On entend Rémi, c'est épouvantable. Quoi. C'est-à-dire que, en fait, de quoi qu'il en coûte, on se rend compte qu'il a commencé bien avant le quoi qu'il en coûte. La République française ne vit plus qu'à crédit des générations futures en prélevant sur le budget de l'État et sur la dette. Voilà. Et donc, alors, ça ne sera pas les sommes qui ont été investies au moment du Covid, bien entendu, mais on voit bien qu'on va continuer à faire du pansement. Le docteur Sebag sait ce que c'est. On met un pansement, on met un cache-misère, on prolonge un petit peu et on ne résout pas l'origine du problème qui est à l'appauvrissement de l'économie française.
Ben voilà. C'est ça.
Alors, heureusement, on ne va pas leur cracher dessus. Et les gens qui vont être concernés par ces mesures en ont besoin. Et s'il faut faire plus, il faut faire plus. Il y a vraiment des gens qui sont... Mais ce n'est pas une solution. Ça satisfait peu de gens. Et même ces gens-là, quand on entend les sommes, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de carence ou de défaillance de certains foyers, de certains ménages. Donc, je ne sais pas comment ça va tenir. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. J'aimerais quand même qu'on ait à la fin de l'année, à chaque fois, tu as donné la somme. Ça va durer combien de temps, jusqu'à quand ? Est-ce que les gouvernements, celui-là et les suivants, vont vivre comme ça, à crédit ?
Mais t'imagines le gouvernement qui va dire, bah tiens, on va arrêter la prime de Noël.
Non, mais il ne s'agit de rien d'arrêter. Il s'agit de savoir si on donne enfin à ce pays les moyens de reconstruire une économie avec de l'industrie, en le protégeant, protection sociale, protection écologique, avec l'Union européenne, pas la France toute seule, bien entendu, mais où on se protège de cette concurrence déloyale mondiale qui nous ruine et qui nous envoie dans le mur. Et si on continue à dire qu'on peut pas, parce que le libre-échange est ainsi fait qu'on peut pas le modifier, eh bien, nous irons un jour dans un chaos qui sera beaucoup plus grave que ce qu'on a connu.
Est-ce que c'est bien, Robert Sebag, de cibler ces aides ? C'est-à-dire qu'il y a eu des aides qui étaient pour tout le monde. Par exemple, la ristourne de 30 centimes sur les carburants. Est-ce que c'est bien aujourd'hui de dire, des aides pour tout le monde, c'est fini, on cible ?
Bien sûr qu'il faut cibler. Après, vous avez toujours l'effet seuil.
Ah bah ouais.
Moi, je prends l'exemple du fioul, par exemple. L'exemple du fioul sont plutôt des personnes âgées, des personnes à petits revenus, si vous voulez. Et on leur demande de se mettre sur un site internet chèque énergie, alors qu'on sait qu'il y a une fracture numérique. On va recommencer la même erreur que pour les vaccins. On demandait aux gens, ils ne savaient pas comment faire, comment obtenir cette aide. Ça, c'est le premier point.
Il y a pas mal de personnes âgées qui ont internet, quand même, Robert.
Oui, mais parfois, elles ne savent pas s'en servir.
Voilà.
C'est extrêmement long.
Il y a deux
Deuxièmement,
temps.
C'est... one shot, c'est-à-dire 100 ou 200 euros d'un coup. Alors qu'on sait, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois
mais
ou l'année prochaine.
Mais elles sont interdites, les chaudières au fioul, de toute façon.
Oui, mais le fioul, c'est l'énergie la plus polluante.
Oui.
Alors, au lieu de donner 100 ou 200 euros multipliés par 1,4 million de personnes, il faut peut-être changer ces chaudières. Il y avait un projet pour le changement des chaudières, donner des pompes à chaleur ou autre chose, beaucoup moins polluant. Et là, on donne one shot, comme ça, 100 ou 200, ce qui ne suffira pas.
C'est en attendant l'interdiction, parce qu'elles vont être interdites, ces chaudières
d'accord,
au fioul.
Mais...
Bon, après, sur l'essence. Alors, sur l'essence, on a dit, on va continuer jusqu'au 15 novembre. Après le 15 novembre, on va diminuer. Et puis, en fin d'année, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Parce que moi, je veux bien qu'on mette un pansement quand ça saigne. Mais s'il y a une hémorragie, un pansement ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? On ne sait pas. Le carburant, il n'y a rien de dit à partir du 1er janvier. On sait que ça va continuer jusqu'à fin janvier. Et au lieu d'avoir 50 centimes, on n'aura plus que 20 centimes. Mais qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier? Et donc, 100 à 200 euros sur le fuel comme exemple, moi, ça me paraît effectivement extrêmement léger et ça ne répondra pas aux besoins.
Après, il y a l'autoroute. Combien?
Non, mais.
C'est pas une solution,
c'est
tout.
C'est pas une solution.
Je sais bien qu'au départ, il faut mettre un garrot,
bien sûr,
vous avez une hémorragie, il faut mettre un pansement, je suis tout à fait d'accord. Les autoroutes, elles devraient augmenter le 1er janvier.
Oui.
Elle dit que ça va moins augmenter que l'inflation.
2-3%.
Donc voilà. Après, on a dit l'électricité, le gaz, ça sera au moins 15%. D'augmentation. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier? Moi, c'est mon inquiétude. Là, on est en train de faire du court terme.
Il faut un bouclier tarifaire.
Très court terme, pendant un mois et demi. Après, on verra. Alors, effectivement, il y a des primes. Il faut que le carnet de chèques soit épais, parce qu'il y en a beaucoup de chèques à faire.
Oui, et puis la dette s'alourdit. Et puis, comme les
prix augmentent,
il y a quand même un moment.
C'est affolant, les 100 milliards. Mais si on n'avait pas l'euro, mais on aurait dévalué combien de fois? l'euro nous protège quelque part, pour les gens qui sont contre l'euro. Heureusement qu'on a l'euro.
Il faut bien qu'il serve à quelque chose.
Voilà, oui, mais bon, heureusement.
Jérôme Lavrieux, il a raison quand même, Bruno Le Maire, de vouloir continuer à aider. Ou alors, est-ce qu'il faudrait, par exemple, augmenter la prime d'activité pour favoriser ceux qui travaillent, par exemple, plutôt que de à chaque fois de faire des aides comme ça.
Mais Bruno Le Maire, il est ministre de l'économie et des finances.
Oui.
Il a un ministre du budget qui est en dessous de lui, mais
il a dû oublier les finances peut-être.
Non, parce qu'en fait, il fait son boulot. Parce que du quoi qu'il en coûte, on distribue tout à tout le monde, y compris celui qui n'a pas besoin. On passe à des aides ciblées. Mais les aides ciblées, c'est fait d'une manière très cynique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Bruno Le Maire? Pour le budget de l'année qui vient, il essaye de faire rentrer l'édredon dans la valise, comme on dit à Bercy. Il faut appuyer pour faire partir l'air, pour essayer de construire le budget. Et donc, ça veut dire quoi? De donner à tout le monde, même quand on ne demande pas, on passe juste à ceux qui ont demandé. C'est très cynique. C'est-à-dire, l'aide pour le fuel de 100 euros, on va l'apercevoir si on la demande. Et comme on l'a déjà vu dans un excellent débat que nous avons eu il y a quelque temps.
Personne ne la demandera,
ici,
donc on ne la donnera pas.
Il y a 60% des gens qui ont droit à une aide qui ne la demandent jamais. Donc vous budgétez la somme, mais vous n'en donnez que 40%. Et le reste, lorsqu'on fera le compte administratif de la nation en fin d'année prochaine, ça revient dedans. Donc c'est ça la fin du quoi qu'il en coûte. Et c'est fait de manière très cynique. Donc la multiplication des chèques, à la rigueur, on ne sait même plus à quoi on a droit.
Oui, c'est ça, oui.
Mais c'est fait exprès. C'est fait juste pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui la demande.
Oui, c'est 25 à 30% des...
Pour ceux qui sont
bien sûr que c'est
on a eu ce débat plein de fois.
Bien sûr que c'est injuste. Mais bien sûr que c'est injuste. Mais comme c'est aussi injuste de la donner à des gens qui n'auraient pas eu à la demander, qui pouvaient vivre sans. C'est fait d'une manière totalement cynique. Parce que les finances peuvent plus continuer. On disait, toi tu dis, c'est le quoi qu'il en coûte existe depuis combien de temps? Il existe depuis 1980.
Oui,
c'est la dernière année où on a voté un budget à l'équilibre. Donc ça veut dire que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire dépenser plus que ce qu'on gagne, distribuer plus que ce qu'on gagne. On est à 58% de dépenses publiques sur le PIB dans notre pays.
Raymond Barre, dernier gouvernement.
Oui.
Alors, je voudrais qu'on prenne Adela en ligne, qui nous appelle de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Magnifique ville, ça va Adela?
Oui, ça va, bonjour.
Bonjour Adela.
Il fait beau en Bretagne?
Non, il y avait du soleil tout à l'heure, là il a plu, maintenant je ne
sais pas. Mais il va revenir, ça va se lever, vous savez Adela, ça se lève tellement, ça se lève plusieurs fois par jour évidemment. Adela, vous êtes en faveur de ces aides ciblées qu'a annoncé Bruno Le Maire?
Les aides ciblées, oui, pourquoi pas, mais en réactualisant la situation de chaque personne.
C'est-à-dire
que les aides, moi par exemple, j'ai fait une simulation pour le chèque fuel puisque je me chauffe au fuel et je n'ai pas le droit. Alors que je suis maman seule avec un enfant, je gagne 2000 euros certes, pour certains c'est énorme.
Elle dépasse 10 800 euros par an.
Voilà, donc j'ai fait deux simulations. Non, je suis toute seule avec un enfant et j'ai fait la simulation deux fois et ça me dit que... je dépasse, puisque...
Vous êtes au-dessus avec 2000 euros et un enfant seul à charge, vous êtes au-dessus.
En fait, on prend en compte vos revenus de précédent.
Bah oui.
Il y a un décalage d'un
d'accord.
an.
D'accord.
C'est la dernière déclaration de revenus.
C'est exactement pareil que pour 2021. La CAF. Vous avez un décalage d'un an pour la PL et un décalage de deux ans pour les autres aides. Moi, il y a deux ans, j'étais en région parisienne, j'avais un salaire très convenable. Aujourd'hui, que ça soit la prime de rentrée scolaire, que ça soit toutes les aides, la seule aide à laquelle j'ai le droit, c'est l'allocation parents isolés. Voilà.
Vous en avez besoin, vous, de cette aide, Adela, cette aide fuel?
Ah oui, tout à fait, puisque le fuel, il a quasiment doublé en un an, le prix du litre. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 1,53 le litre quand on veut mettre en dessous de 1000 litres.
Ouais.
J'ai une maison qui est chauffée au fuel, qui est en location, qui est très très mal isolée et dont le propriétaire veut pas faire des travaux puisqu'il n'a pas le droit aux aides.
Et 100 à 200 euros, madame, ça n'éponge pas du tout l'augmentation du prix, en plus.
Ah non, de toute façon, elle les aura pas.
Du tout. Non, ça éponge
mais en plus.
Non seulement je les aurai pas, mais ça éponge rien.
Ouais. Ça fait 7% de remise sur une cuve de 1000 litres. Le fuel, il a augmenté de plus de 7% en un an.
Ouais, il t'annonce ça comme si c'était un cadeau magique.
L'année dernière, j'avais fait le plein j'ai fait le plein à 0,83.
Ouais, c'est ça.
Au mois de mars, quand j'ai fait le plein, je l'ai fait à 1,43.
Voilà. Ouais, c'est ça. Ça fait quasiment 100%, ça fait 80% d'augmentation. C'est énorme.
En deux ans, je suis à 5 200 euros de fuel.
Bien sûr. Non, mais c'est énorme.
Contre des chauffages.
Merci beaucoup Adéla, en tout cas, d'avoir été avec nous sur sur RMC. Vous avez beaucoup de messages, Rémi, concernant ces aides.
Un message de David, notamment, qui lui aussi se chauffe au fioul, qui nous dit « Coucou, on fait rentrer 1000 litres de fioul pour cet hiver. On a payé 1 600 €. L'an passé, c'était 865.
C'est le double.
Donc, quand on touche 100 ou 200 € d'aide, bah, on va prendre. Hein, désolé, on gagne moins de 2 000 € avec femme. Alors, comment on fait? On mange comment? On se chauffe comment? Comment on fait son plein? On est dans le rouge dès le 15 du mois. On va finir par vendre la maison si ça continue.
Oui, le problème, c'est que aussi il y a pas grande différence entre quelqu'un qui va gagner effectivement 1 900 et quelqu'un qui va gagner 2 000.
Et l'immense majorité des gens qui se chauffent au fioul habitent en zone rurale, habitent à la campagne. Plus et donc eux se sont pris de plein fouet l'augmentation de l'essence aussi.
Voilà, et l'aide se termine le 15 novembre. La ristourne de l'État. Notre invité sur ce débat, c'est Pascale Hébel. Elle est directrice associée à COES, une société de conseil spécialiste de la consommation. Bonjour Pascale.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On parle de cette déclaration de Bruno Le Maire ce matin. Fini le quoi qu'il en coûte. Bon, ça on le savait. Et place aux aides extrêmement ciblées. Est-ce que ça c'est une bonne stratégie pour vous?
C'est en effet ce que vous disiez dans le débat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de la population qui n'a pas de problème d'argent, qui a fait de l'épargne pendant le Covid et qui bénéficie d'aides sur le carburant, par exemple. Et donc, c'est vrai que de pouvoir cibler, depuis le début, on dit que ça serait beaucoup mieux pour les finances de l'État. On a une partie de la population, on est à la moitié des Français qui en ce moment ont des difficultés pour boucler leur budget, notamment parce que l'alimentation, on est aussi à 12% d'inflation et on n'a pas fait de chèque alimentation, donc il y a tout un tas de secteurs.
Il y en a eu un, qui n'était pas forcément réservé à l'alimentation. Il s'appelait chèque alimentation, mais il n'était pas réservé à ça.
Oui, c'était un chèque inflation, donc en fait, il couvrait tout, y compris l'énergie. Donc en effet, on a des difficultés pour une partie de la population et c'est vraiment les plus âgés en zone rurale qui souffrent le plus. Donc c'est pas ceux qui sont au pouvoir et ceux qui s'expriment, donc ce sont les invisibles, comme ce qui s'était passé pour les gilets jaunes. C'est vraiment des populations qui n'ont pas les moyens de s'exprimer et qui en effet sont en non recours, c'est-à-dire que quand il y a des aides, vont pas forcément les toucher. Donc souvent, c'est des associations qui vont les aider, des associations qui sont sur place. Et donc là, les difficultés vont s'accumuler et il n'y aura pas de situation miracle pour aller aider ceux qui ne sont pas dans les cases. Quoi, en fait.
Oui, mais justement, c'est ce qu'on dit, ces aides ciblées, alors c'est 100 € par-ci, 100 € par-là. Alors bien sûr, ça fait plaisir pour et ça aide, mais enfin, ça ne peut pas être pérenne. Quand est-ce qu'on va arrêter tout ça? Parce qu'il y a un moment où c'est pas logique, en fait. Je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Quoi.
Regarde la prime de Noël, elle est versée depuis 1998. C'était une prime exceptionnelle et depuis, il n'y en a jamais.
On ne peut plus l'arrêter maintenant.
On colmate.
Ben c'est ça. Il n'y a pas de vraie politique. Finalement, c'est toujours du coup par coup, quoi, parce qu'elle est belle.
Oui, non, en effet, la solution, c'est d'augmenter les bas salaires, en fait. C'est le SMIC. Mais après, ça se répercute peut-être sur les salaires
les
dessus. Salaires,
et c'est le cycle infernal, l'inflation.
Mais c'est ce qui existe quand même dans certains pays, en fait. En Belgique, l'inflation, les salaires sont indexés sur l'inflation. Donc, ce qui manque, c'est vraiment d'aider, enfin notamment de faire des hausses de salaire pour les plus bas salaires. Et ce qu'on aurait aimé, c'est que ce soit les entreprises qui prennent en charge les dépenses de carburant, comme on a des chèques restaurants.
Elles subissent de plein fouet la hausse aussi des prix de l'énergie, les entreprises, notamment les petites, et c'est pas facile pour elles forcément d'augmenter.
Elles connaissent le déplacement de leurs salariés, c'est-à-dire que c'est les seuls qui sont capables d'identifier si on a besoin d'une voiture pour aller travailler. Il faut pouvoir cibler finalement ce qui est essentiel.
On est avec Bastien qui nous appelle de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Bastien.
Salut Estelle, comment ça va?
Bah bien, et vous Bastien?
Nickel.
Vous avez remis le chauffage à Grasse ou pas encore?
On a mis le petit feu de cheminée le soir, mais c'est plus pour la déco.
Ouais, pour vous, ça va encore.
Il y a de la chance.
Il fait 23, du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de chauffage. Donc, on est privilégié là-dessus, en tout cas.
On va tous aller habiter dans le sud, en fait. L'été, il fait trop chaud. On va dans le nord l'été et dans le sud l'hiver. Bah, voilà.
Vous en rigolez, mais c'est ce qu'on fait pour les vacances au final. On monte.
C'est ça.
Il fait trop chaud. Donc au final, voilà.
Bastien, est-ce que vous bénéficiez de toutes ces aides annoncées par Bruno Le Maire?
Alors, donc, c'est rigolo. En fait, j'ai appelé parce que depuis ce mois-ci, depuis le 1er novembre, 31 octobre, avec ma compagne, on n'a plus le droit à la prime d'activité parce que, du coup, je gagne 2000 euros par mois et elle 1005. Donc, c'est bon, on est passé au-dessus du seuil parce qu'on a eu une augmentation de salaire de 50 euros. Donc, ça y est, c'est terminé. Voilà, prime d'activité de 100 euros, c'est terminé.
Oui, donc là, vous êtes perdant, alors. Augmentation de 50 et vous perdez 100, vous êtes perdant.
Exactement. Et j'ai été manager aussi pendant quelques années et j'avais beaucoup, c'était un service caisse et il y a beaucoup de personnes que je comprends qui ne font pas d'heures supplémentaires parce qu'elles perdent des aides et on les comprend ces jours-là. Et moi, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y en a, et c'est un peu le coup de gueule du jour, c'est qu'il y en a marre de payer pour des gens qui ne foutent rien.
Bah, c'est pas une majorité,
Non, c'est clair, mais on distribue des aides, on distribue. Il y a des retraités qui gagnent 1000 balles par mois, eux sont en galère. Il y a des gens qui bossent pour 1500, 1600 euros, eux, ils ont droit à rien. C'est eux qui sont en galère. C'est des gens qui ont bossé toute leur vie. C'est des gens qui se lèvent le matin, qui taffent. Donc, c'est la prime d'activité qu'il faut vraiment primer et qu'il faut accentuer à un moment donné.
C'est
la gauche qui a mis en place, ça me choque même, mais bon. Voilà, pour une fois qu'ils ont fait quelque chose de bien, c'est vrai que là-dessus, c'est quand même correct. Les classes moyennes, en fait, elles payent vraiment pour des gens...
Il n'y a plus de classe moyenne, il ne va plus y en avoir.
Exactement, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Et la deuxième chose, c'est je pense aussi que... Bah, déjà, premier truc, c'est qu'il faut sortir un peu les doigts pour travailler un petit peu plus. Avec ma compagne, on a deux boulots, donc c'est vrai que pour essayer de s'en sortir... C'est pas une solution, je suis d'accord, mais surtout, la deuxième chose, je sais pas si vous allez être d'accord, Estelle et les autres, les gens, il y a quand même pas mal qui savent pas gérer leur argent aussi. Je sais pas si l'éducation financière, c'est aussi important, parce que, à un moment donné, faut voir aussi comment les gens ils gèrent l'argent, parce que donner c'est bien, mais le dépenser n'importe comment, c'est encore autre chose.
Mais quand vous en avez pas beaucoup, c'est compliqué, hein.
Je suis d'accord, mais des fois, quand on en a pas beaucoup, on gère encore moins bien que quand on en a un peu plus. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant.
Bah, ça soulève un problème douloureux.
Ça, dans la consommation. Mais les McDo, ils sont pleins à chaque fois. Voilà, moi, je suis dans
C'est parce qu'il y a de plus cher. Bastien, c'est parce qu'il y a de plus cher à McDo. Pour 6 euros, vous avez un repas.
Non, je sais, mais en fait, tout est toujours plein. On est à un moment donné, il faut se serrer un peu. Il se passe des choses dans le monde où c'est un peu compliqué. En ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, bah, ça passera. J'espère, dans quelques années, ça passera. Voilà, serrons un peu les fesses ensemble, et puis ça va peut-être passer, mais à un moment donné, faut peut-être faire, faisons des efforts, et surtout, cette prime d'activité, le boulot, et les gens.
C'est la valorisation du travail,
Allez-y, on y va, ces pauvres personnes, les mères isolées, les couples qui s'en sortent pas, les retraités qui gagnent 1000 balles, putain, et donc ces gens-là et les autres, au boulot. Voilà.
Merci Bastien pour ce coup de gueule dans Estelle Midi. Perico, je vous vois bouillir.
Revient
dans un instant parce qu'on a beaucoup de messages. Rémi nous les lira tout à l'heure. Beaucoup d'auditeurs également qui patientent au 32-16 pour donner leur avis sur les aides ciblées. On parlera aussi de Clément Beaune. Clément Beaune, il veut un bouclier tarifaire sur la SNCF, mais ciblé, pas pour tout le monde, le bouclier tarifaire. Donc ça fait partie des aides ciblées de Bruno Le Maire. Vous voulez dire un truc?
Allez, juste un court message de Thierry qui nous dit: bonjour Thierry, je suis banquier, j'aimerais être le conseiller bancaire du ministre Bruno Le Maire. À l'heure actuelle, il serait interdit bancaire.
Oui, il dépasse un peu la marge de remboursement. Merci à notre invité Pascal Hébel. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi. On continue à parler de ces aides ciblées. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story Canal 23 avec Rémi Barré, Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Robert Sebag. Dans un instant, on parle des aides ciblées annoncées par Bruno Le Maire. Mais avant cela, une info foot en Ligue des Champions en 8e de finale. On connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain et ce sera le Bayern Munich. Tirage au sort extrêmement difficile.
Manque de chance.
Pour les Parisiens, si les Parisiens avaient terminé premier de leur groupe, ils auraient affronté Bruges. Ça serait mieux. Mais enfin, écoutez, ce sera le Bayern Munich, autre choc de ces 8e de finale, Liverpool, Real Madrid, match aller en février au Parc des Princes, match retour, ce sera en mars pour le coup, du côté de Munich. On verra tout ça bien sûr avec Vincent Moscato à partir de 15h et Jérôme Rotten 18 et puis ensuite dans l'after à partir de 20h. On va revenir nous sur l'économie et le ministre Bruno Le Maire qui veut désormais faire des aides ciblées pour les Français, que ce soit sur les carburants, carburant, le fuel ou encore l'alimentation et même peut-être, Rémi, en ce qui concerne la SNCF.
Oui, en tout cas, ça c'est ce que demande le ministre des Transports, Clément Beaune, qui appelle la SNCF à travailler sur un bouclier tarifaire. Pourquoi ? Parce que la SNCF a déjà prévenu, elle est aussi victime de la flambée des coûts de l'énergie. Donc, il va y avoir une augmentation des prix des billets. Le patron de la SNCF a même dit, si on répercutait directement la flambée des prix de l'énergie sur le prix des billets, bah, chaque billet augmenterait de 10%, ce qui est pas soutenable pour les utilisateurs et les usagers. Et Clément Beaune souhaite donc que l'augmentation prévue des billets soit en tout cas inférieure à l'inflation et surtout que ceux qui ont besoin du train au quotidien, les plus modestes, les jeunes qui utilisent les Ouigo par exemple, soient protégés. Voilà ce qu'il dit.
Est-ce que ça c'est une priorité pour vous, Robert Sebag, aider les jeunes qui prennent des Ouigo ?
Mais vous savez qu'il existait déjà une formule, c'est-à-dire qu'il y avait un abonnement permanent de 70€ par mois pour les jeunes, ils pouvaient prendre le train d'une manière libre, sauf que chaque fois qu'ils essayent d'avoir des places, ben ils n'ont pas de place. Et donc ils doivent payer plein de tarifs et ça leur coûte trois fois plus cher que ce bouclier tarifaire. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc s'il n'y a pas assez de place, si vous voulez, vous pouvez faire tous les boucliers tarifaires, il va y avoir encore certaines restrictions, vous ne pourrez pas les prendre peut-être le week-end, etc., etc. Donc il faut faire extrêmement attention parce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'essence, les autoroutes, si les trains aussi augmentent, tout ça, ça va faire un petit peu bouillir la vapeur, quoi.
Sur la SNCF, on mettra en place un bouclier tarifaire ciblé pour vous, Jérôme Lavrieux, ou là, il faut le faire pour tout le monde?
Je pense qu'il faut le faire pour tout le monde.
Ben oui.
Parce qu'on prend le train parce qu'on a une nécessité, ou on va en vacances, ou on va travailler, ou on n'a pas envie de polluer aussi.
Oui.
On peut prendre le train pour ça. Et moi, je vois nos amis allemands qui sont les chantres de l'orthodoxie budgétaire, on en parlait il y a quelques minutes, du budget de la nation. Et ils ont décidé, avec un abonnement d'une cinquantaine d'euros
49.
Par mois, 49 euros par mois, c'est ça?
Oui.
Les trains sont gratuits, sont utilisables à volonté.
Sauf le TGV.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui prennent le TGV pour partir en vacances, mais pour travailler, ils prennent le train régional ou les grandes lignes nationales.
Ils vont augmenter aussi.
C'est une grande première de faire une somme tarifaire et sécher les gens qui sont toujours en équilibre budgétaire, les Allemands, c'est dans leur constitution. Donc il y a peut-être des leçons à prendre. Ça a un double impact en termes de pouvoir d'achat pour les travailleurs, les pendulaires, ceux qui prennent le train le matin et le soir. Et puis ça a aussi un impact, puisqu'il y a la COP 27 en ce moment, ça a un impact fort sur le climat, parce que ça limite la nécessité de prendre sa voiture. Je pense que peut-être qu'on pourrait regarder de ce côté-là.
Péricolégas, va quand même y avoir une contrepartie à tout ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est qu'à un moment, il va falloir financer. Alors on sait que la dette, elle file, mais il faut quand même rembourser les intérêts, il y a les taux qui montent, ça va être quoi, la hausse des impôts, alors que Emmanuel Macron avait promis une baisse des impôts.
Il y a deux pistes. Soit l'État reprend le contrôle des institutions qui fournissent l'énergie et les transports. Je ne vais pas utiliser le mot nationalisé, comme le protectionniste, c'est interdit. Voilà. Est-ce que si on prend le contrôle-là, il va reprendre
le contrôle? C'est le cas, EDF.
Il va reprendre son contrôle d'EDF. Du coup, c'est lui qui produit, c'est lui qui donne. La SNCF qui fasse la même chose, on revendra plus tard. Mais là, au lieu de redonner des chèques,
on n'a jamais
vendu. C'est pas un cadeau de Noël que tu vas reprendre.
Non, mais là, on intervient carrément l'État de façon régalienne, comme autrefois, quand l'État dirigeait
la. 83% à 100%.
Non, mais c'est lui qui fait les tarifs. C'est lui qui fait les tarifs d'électricité. Voilà. Alors, il y a une autre piste.
Enfin, qui va payer?
C'est de bêcher les chats. Alors, je vais vous dire qui va payer. On peut aussi, dans la suite de ce que disait Bastien, qui disait les gens qui. Est-ce qu'on peut baisser les charges sociales dans ce pays et redonner cet argent aux salariés, aux gens qui consomment? Alors, les charges sociales, on les prend à qui? On les prend à ceux à qui on ne peut plus les donner. Voilà, je suis sûr que si on fait le bilan, le pognon dingue du président de la République.
Ça veut dire
et c'est
que
une phrase forte.
Ça veut dire qu'il n'y a plus la sécurité sociale pour tout le monde. Ça veut dire que
les charges sociales, c'est un revenu différé.
Voilà, c'est-à-dire qu'on applique la doctrine.
Si on
applique la doctrine de ce fasciste de Rancard qui devait être fasciste pour avoir dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Et elle doit prendre sa juste part.
On prend cette pognon dingue, on le garde, on le donne vraiment à ceux qui sont nécessités, qui ont droit, qui ont vocation à le recevoir. On fait des économies gigantesques et on redistribue cet argent. On ne le donne pas au capital.
Mais on redistribue. Mais qui va
approuver la classe moyenne?
Non.
Si on fait un bilan, ça ne sera pas le débat d'aujourd'hui, si on fait un bilan des classes et des catégories qui sont concernées par ces aides sociales, il y a peut-être des procédures qu'on peut revoir. C'est ce que je veux sous-entendre. Voilà. D'accord. Et là, ça serait une mesure courageuse politique. Et là, alors, il faudrait faire les états généraux. Attention, c'est dans un consensus total avec les partis politiques, les syndicats.
Tu parles.
Et on voit qui. Et puis, à un moment donné, le président de la République, avec sa majorité relative ou absolue, il tranche. Mais la seule solution, le problème, c'est que ce que je dis là, on y viendra. mais on y viendra dans la souffrance, dans le chaos et dans la confrontation, au lieu de le faire aujourd'hui en maîtrisant les enjeux. Alors je vois évidemment Jérôme Lavrieux qui dit c'est pas possible. Chaque fois qu'il y a une mesure courageuse et douloureuse à prendre dans ce pays, on a toujours des gens qui disent ce n'est pas possible.
Rémi le rappelait il y a quelque chose, on avait fait ce débat, y a-t-il trop d'aide en France? Il y a plus de 200 types d'aide en France, quoi. Donc effectivement, il y a peut-être moyen
que je voulais dire. Il y avait une particularité française
qui
était de dire deux choses. La sécurité sociale, c'est-à-dire la santé et les allocations familiales ne sont pas liées du tout aux revenus des gens. Et donc, il y a une politique familiale. Quelles que soient vos ressources, vous avez droit aux allocations familiales et vous avez droit aux 100% à santé. Est-ce qu'on veut revenir là-dessus en sachant que toutes les associations disent oui, mais la démographie, c'est importante, les taux de natalité, c'est important. Donc, il faut favoriser la politique familiale et ne pas la limiter en fonction des ressources. Donc là, il y a deux tabous. Est-ce qu'on est prêt à faire sauter ces tabous? Et là, on peut baisser les charges. Mais moi, je vois la situation hospitalière aujourd'hui, si vous voulez, avec le déficit de la sécurité sociale, et on n'arrive pas aujourd'hui, il y a une crise majeure.
Ça, on en parlera à 14h.
Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire sauter ces deux tabous?
Il va falloir le faire. Il va falloir le faire.
De ressources, on limite les allocations familiales et on limite le remboursement à 100% pour la santé.
On recule l'échéance.
Jérôme Lavrieux.
Les états généraux qui aboutissent à une décision consensuelle, la dernière fois qu'on a fait des états généraux, c'était à la Révolution. Oui. Ça aboutit juste à couper la tête du roi et d'une bonne partie de la population.
Oui, mais vous avez vu quel progrès ensuite.
S'il te plaît.
La tête du roi est tombée, c'est formidable.
Oui, bien sûr. Après, c'est devenu extraordinaire. Tout le monde sait, on a coupé la tête de tout le monde. C'était joyeux, entre bons camarades. Après nous dire, il faut arrêter toutes ces aides multiples et variées.
Non, pas toutes.
Il y a 10 minutes, tu viens de nous dire qu'il fallait des aides ciblées.
Oui.
Les aides ciblées, c'est des aides particulières pour des cas particuliers. Donc c'est plein d'aides différentes les unes des autres.
À 200, c'est
donc il faut s'adapter. Et je rappelle que supprimer les allocations, les charges sociales, comme tu le dis, les charges sociales, c'est un revenu différé. Quand tu cotises pour le chômage, c'est pour le jour où tu es au chômage. Quand tu cotises pour la retraite, c'est pour le jour où tu es en retraite.
Attends,
quand tu cotises pour ta maladie, c'est pour le jour où tu es malade.
C'est pas vrai, Jérôme.
Tu sais, à 100%.
Tu sais très bien que c'est pas vrai.
Donc si tu supprimes les charges sociales, tu te supprimes des revenus différés pour toi. C'est ce qui fait l'honneur de notre pays, de jamais laisser totalement quelqu'un sur le bord de la route.
Doctrine.
Quand on va chez toi pour se faire soigner, tu ne demandes pas la carte bleue avant.
Doctrine.
Tu demandes qu'est-ce que vous avez.
Je suis d'accord. Mais sur les dogmes.
Non, mais très rapidement, je voudrais comprendre.
100% de la santé, les allocations familiales, est-ce qu'on les met en fonction de l'attribution, les ressources ou pas? C'est ça la question. Et aujourd'hui, tout le monde, il y a des gens, certains, toi peut-être, moi,
on est obligé de se poser la question.
Les allocations familiales, ça m'aidait, j'étais ravi de les recevoir, mais j'aurais pu m'en passer.
Le cœur déchiré.
On a Sarah qui nous appelle de Troyes. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah qui est sans profession et maman de trois enfants. Sarah, vous allez bénéficier donc de ces aides ciblées annoncées par Bruno Le Maire ce matin. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour vous, ces aides?
Je veux dire que c'est toujours ça de prix, mais moi ce que j'ai constaté, c'est que j'ai plus d'heures creuses, parce que chez moi tout est électrique, et j'ai plus d'heures creuses pendant midi. Donc en fait, le chèque énergie qu'ils nous donnent aujourd'hui, moi je vais le payer dans ma facture électricité.
C'est ça, vous pouvez même plus jongler entre les heures pleines et les heures creuses, donc vous perdez de l'argent, quoi.
C'est ça, en fait, j'ai plus que les heures creuses la nuit, j'avais des heures creuses entre midi et 14h, donc je faisais tourner mes machines et tout pendant midi, et là, il n'y a plus d'heures creuses. Le gouvernement demandait à EDF de retirer les heures creuses pendant midi.
Et vous les avez le soir, la nuit?
Oui, j'ai la nuit entre 1h35 du matin et
tu manges que la nuit, toi?
Moi, je les ai de 22h30 à 6h, mes heures.
Ça doit dépendre des gens, mais
ça dépend, non, ça dépend des villages.
Elle va pas mettre son réveil.
Ah, c'est terrible.
Ça dépend des villes.
C'est terrible. Ouais. Ce qu'on prend d'un côté, on l'enlève de l'autre et vice-versa.
Donc, en fait, le chèque énergie, c'est bien de nous donner un chèque énergie, mais moi, je vais payer, je pense, dans ma facture la même somme, voire plus.
Vous avez remis le chauffage déjà, Sarah, à 3?
Je le mets un peu 2 heures, je l'arrête, et voilà, pour faire des économies.
Merci beaucoup en tout cas Sarah d'avoir été avec nous sur RMC. Rémi, plein de messages sur l'application RMC.
Oui, ce que vient de dire Sarah, c'est exact. Hein, c'est à la demande de RTE qui gère le réseau et des pouvoirs publics, les heures creuses entre les midis ont été supprimées pour éviter, on le sait, parce qu'il y a des tensions sur
les
le réseau électrique.
Les pics de consommation.
Voilà, les pics de consommation. Et c'est vrai que forcément, pour le porte-monnaie des consommateurs, c'est délicat.
On aurait fait dû les laisser en fait.
On reprend surtout la prime.
Il y a de très nombreux messages, comme le message par exemple de Christine qui nous dit bonjour. D'accord, les aides c'est bien, mais il faut plutôt augmenter les salaires, ce qu'on disait, et les pensions de retraite.
Baisser les charges.
Et les pensions de retraite dignes de ce nom, c'est-à-dire pour ceux qui ne touchent pas assez afin de pouvoir vivre normalement et non plus survivre.
On va terminer avec Aurélien qui nous appelle de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Et bonjour Aurélien, vous vouliez donner votre avis sur notre sujet du jour, sur les aides ciblées de Bruno Le Maire.
Oui, j'ai beaucoup d'avis à donner sur beaucoup de sujets, mais là, je me concentrerai sur Bruno Le Maire et ses chères idées un petit peu extrême droite.
N'exagérez pas, non, là, vous pouvez pas dire ça.
Monter les populations les uns contre les autres, quand on reçoit un chèque, on le reçoit, et puis voilà, on va pas demander à ce qu'il s'arrête de soi-même. À l'heure actuelle, pour vous donner ma situation personnelle, je gagne 1 300 euros, 1 400 quand j'ai des primes, qui tombent sous commercial. Donc, j'ai pas trop à me plaindre, on va dire, j'ai un boulot, et tous les jours, je sors de chez moi, comparé à une période de chômage que j'ai bien connue. Je peux vous dire que de travailler, c'est juste ce qui apporte de la vie au quotidien. Néanmoins, j'ai fait le calcul. Si je restais chez moi, j'ai 3 enfants à charge, je suis en instance de divorce. Si je restais chez moi, je toucherais environ 1 500 euros tous les mois. Voilà.
C'est ça qui va pas.
Alors, ce qui va pas aujourd'hui, c'est pas les populations qui reçoivent le chèque, c'est les mains qui signent les chèques et qui font les lois complètement un petit peu, on va dire, retorses. Ouais. Par exemple, ils vont vous faire bénéficier de 15% de réduction sur une facture qui va prendre 300%. Donc forcément, ils sont gentils. Mais au final, je ne comprends pas que l'électricité prenne 100 à 200% d'augmentation dans le pays. C'est quelque chose comme...
On a eu de la chance, Aurélien. C'est pire
mais partout en Europe. Pour vous, elle ne prend pas 100 à 200%.
C'est pour les entreprises.
15% à partir du 1er janvier, normalement. C'est ce qu'on dit.
C'était déjà pire en Grèce. Les salaires, par exemple, je prends l'exemple de la Grèce. Les salaires sont à 600 euros pour le salaire minimum. Leur charge électricité, énergie... Elles étaient déjà supérieures aux nôtres à l'époque de l'été dernier, moi, quand j'ai communiqué avec des Grecs. Pour vous dire simplement ma pensée aujourd'hui, moi, je suis un électron libre dans ma tête, j'ai toujours pensé librement, et je dois assumer pour mes 3 enfants, et c'est pas toujours rose, on va dire, le quotidien. Et leur expliquer qu'ils ont un avenir, comme nous ou nos parents ont connu, je perds même pas mon temps à leur donner cet avis. En gros, aujourd'hui, j'en veux à mes dirigeants qui n'ont qu'un seul discours dans la bouche, opposer les gens les uns aux autres, les riches contre les pauvres, ceux qui reçoivent une aide contre ceux qui n'en reçoivent pas. Pour vous situer, moi, avec 3 enfants, sa carte de famille nombreuse, 1 300 euros, donc au SMIC, hein, parce que mes primes, je ne compte pas, j'ai droit à 0 aide.
Donc, ça, c'est pas possible. Ça me paraît incroyable, Aurélien. Enfin, pardon, mais je vois pas comment, avec 1 300 euros net, vous pouvez ne pas toucher de prime avec 3 enfants à charge.
Je vais de l'avant, j'essaie de pas rester immobile. Ouais. Et malheureusement, oui.
Et quel âge ils ont, vos enfants?
Ils ont 7 ans, 4 et 3 ans.
Vous les avez à charge, vous, ou c'est votre ex-compagne?
Non, je suis en instance de divorce pour l'instant, c'est pas défini. Donc, je suis encore marié, j'ai encore mes 2 enfants.
C'est votre ex-compagne qui doit toucher les aides familiales à ce moment-là.
Il y a les aides familiales, oui.
Mais si vous voulez, mon cas particulier, il n'est pas intéressant dans le sens où aujourd'hui, c'est le cas
général. C'est intéressant de voir qui touche et qui touche pas. Vous dites faut pas monter les gens les uns contre les autres, mais je suis désolée. Si vous ne touchez pas d'aide à 1 300 euros avec 3 enfants à charge, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, ça me paraît aberrant. Enfin, excusez-moi, Aurélien. Aujourd'hui, avec l'inflation, s'en sortir avec 1 300 euros et 3 enfants à charge.
Mais quand ça, c'est prime, Aurélien. Donc,
quelqu'un les touche à votre place.
Voilà. C'est pas possible.
Il y a 100 euros de prime d'un mois sur l'autre, mais c'est surtout, en fait, le fait que je sois encore marié et aussi.
Voilà. Donc, il y a 2 revenus.
Voilà. En compte les 2 revenus.
Voilà. Alors, j'ai fait une simule sur Internet, 1 500 euros de tous les mois, j'ai le droit, en plus de mon salaire, alors c'est génial, mais quand on arrive devant l'assistante sociale, en une demi-heure, elle vous torche, elle vous dit, bon écoutez, j'ai d'autres gens derrière vous, vous avez droit à rien, au revoir, et renseignez-vous sur Internet. Mon dernier point de détail, si je peux donner un petit avis de 10 secondes.
Très rapidement, rien.
Aujourd'hui, les gilets jaunes, il serait peut-être temps de les ressortir avec un petit code rouge dans la main à tous les ronds-points, parce que le gilet jaune, quand on se faisait surtaxer la tronche, que tous les gens étaient mécontents, pas de souci. Entre temps, il y a eu le Covid et il y a eu quelques petits éborgnages dans la rue. Je comprends que les gens n'aient pas trop envie d'y retourner. Néanmoins, s'il y a une responsabilité dans le pays, c'est la responsabilité de nos dirigeants qui ont fait n'importe quoi avec leur argent et il serait peut-être temps de remettre une troisième chambre, le Conseil économique et social, qui a fait virer le général de Gaulle, tout simplement. Okay. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Aurélien, d'avoir été avec nous. On va terminer avec la consultation qu'on a fait sur Twitter, sur le compte d'Estelle Midi. Faut-il continuer ces aides ciblées, Rémi?
On coupe le robinet pour 64% des personnes qui ont voté sur nos réseaux sociaux.
Bah, c'est énorme.
Ouais.
Allez, dans un instant, Anthony Morel, on va parler de la COP27, justement, et des innovations pour lutter contre le réchauffement climatique. Tout n'est peut-être pas perdu. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes dans Estelle Midi et tout de suite c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony, on va parler de la COP27 qui se déroule actuellement en Égypte. On va essayer de faire rimer écologie et technologie. Et il y a peut-être des innovations qui vont nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, alors sans être techno-gaga ou techno-béa, il ne s'agit pas de dire que l'innovation va tout résoudre, mais c'est une partie de la solution. Clairement, je vais vous donner trois illustrations très concrètes. La première, c'est le potentiel énorme du stockage de CO2. En gros, l'idée, c'est qu'on va aspirer le CO2 contenu dans l'air, ce qui cause le réchauffement climatique, et on va aller le piéger dans le sous-sol, dans des roches, pour qu'il ne puisse plus remonter à la surface. Ça, il y a plein d'expérimentations
l'Islande,
en la matière.
L'Islande le fait.
Exactement. Ouais, voilà. Ben, j'allais parler de l'Islande. Les deux plus impressionnantes, c'est l'Islande, projet Orca, et aux États-Unis, un projet qui s'appelle Bison. Alors, ça ressemble en fait à des gros ventilateurs ou à des gros systèmes de climatisation qui vont donc aspirer l'air, qui vont filtrer le CO2 grâce à des produits chimiques. Mmh. Ensuite, une fois le CO2 piégé, eh bien, on va le réchauffer, le transformer en liquide. Le CO2 liquide, c'est inodore, incolore, un peu comme de l'eau. Et ensuite, on va mettre ça dans des puits souterrains, piégés sous terre, et il devient inoffensif. Alors le problème, c'est pas complètement parfait. D'abord parce que ça va prendre du temps avant de se déployer à grande échelle, première chose. Et puis surtout, il faut pas que ce soit un chèque en blanc pour dire pour mettre la poussière sous le tapis, du genre, si on peut se débarrasser du CO2...
On peut rester au diesel.
Voilà, exactement. On n'a qu'à se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Non, évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, mais c'est une solution qui est très intéressante et il y a beaucoup, beaucoup de projets un peu partout dans le monde.
L'idéal serait quand même d'émettre moins de CO2, comme ça on n'aurait pas besoin de le stocker.
Alors, tant qu'à faire, oui, vous avez raison, notamment dans les transports. Alors, on parle beaucoup des voitures, on parle beaucoup des avions, mais il y a aussi les bateaux, les porte-conteneurs, notamment, on a tous ces images en tête, qui sont...
C'est immense. Les paquebots de croisière.
Absolument, absolument. Alors, j'allais parler d'une une techno, une rétro-innovation, pour appeler ça comme ça, c'est-à-dire des porte-conteneurs. Imaginez un très gros porte-conteneur, mais avec des voiles. Alors ça, il y a plusieurs startups françaises qui bossent là-dessus. C'est en gros, on a toutes les technologies d'un porte-conteneur dernier cri, avec l'optimisation des trajets, etc., mais avec un gréement, et ça permet de transporter. Alors là, c'est un bateau qui fait la taille d'un stade de foot. Vous avez dessus 500 voitures. Il faut des grosses voiles, effectivement, mais ça permet de réduire 90% de la consommation de carburant. C'est un peu plus lent aussi, évidemment, donc c'est pour des marchandises qui n'ont pas forcément pas des produits frais, si vous voulez, mais ça permet, sinon c'est un peu embêtant, si vous voulez.
Surtout s'il n'y a pas de vent.
Surtout s'il n'y a pas de vent. Alors normalement, c'est optimisé.
Il y a un petit moteur, je pense.
Non, il y a un moteur.
C'est un hybride.
C'est de l'hybride, effectivement. Et puis surtout, il y a des technologies qui permettent maintenant d'optimiser les trajets. On utilise de l'intelligence artificielle pour ça. Donc en fait, on mêle vraiment le bon vieux cargo à voile avec la technologie dernier cri. C'est Neoline, une start-up nantaise notamment qui travaille.
Ah, génial.
Ouais.
Alors la dernière innovation, c'est mon coup de cœur. C'est un peu insolite, quoi.
Oui. Hein? Alors c'est pour les vaches, voilà, parce que vous savez que les vaches, ça émet du CO2.
Bien sûr.
Alors non pas, pardon d'être technique, c'est pas les pets, c'est surtout les rots des vaches.
Oui.
Absolument.
Les pets, c'est du méthane, je crois.
Oui, alors c'est du méthane aussi d'ailleurs, mais c'est surtout les rots. Je parle sous le contrôle de
Périmine.
Exactement, c'est ça. Et donc deux innovations. Il y a une start-up qui a mis au point des compléments alimentaires. On est dans la food tech, on invente la nourriture du futur qui permet de réduire de 30% les émissions de méthane des vaches, grâce notamment à des extraits de citron, d'ail, enfin c'est un mélange un peu bizarre.
De charbon.
Ça marche sur l'humain.
Alors je ne sais pas, je vais me renseigner. C'est vrai que ça peut être intéressant comme application. Et alors les Britanniques vont encore plus loin. Ils ont mis au point un masque absorbeur de méthane, un masque pour les vaches qui est capable d'absorber. Alors c'est pas un masque qui couvre complètement leur gueule, mais ça se met au-dessus du museau et en fait ça permet d'absorber 50% des émissions. Alors je suis d'accord, mais je trouve pas que ce soit une solution forcément incroyable, mais en tout cas ça fait partie des pistes de recherche aujourd'hui pour parce que ça émet énormément. Je trouvais ce chiffre, rien qu'en France, les vaches émettent autant d'équivalent CO2 que 15 millions de voitures, ce qui est quand même énorme.
Ah oui.
Ah, c'est quand même beaucoup.
C'est absolument massif.
Bah oui.
Regardez mon diesel.
Puisque les vaches polluent, je vois pas pourquoi je
on parle de quoi demain, Anthony ?
Demain, je vais vous présenter une machine qui plie le linge à votre place.
Oh, formidable. Voilà. Oh là là, mon Dieu, c'est formidable. Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, midi 50 dans Estelle. Midi, dans un instant, on parle d'Emmanuel Macron prêt à dissoudre l'Assemblée nationale, selon le journal du dimanche. Est-ce que ce serait une erreur ? On attend vos appels au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.